Alors bonjour à tous. Je tiens, avant de commencer, à remercier les fidèles de la chapelle Saint-Pie-V qui ont organisé une fois encore ma venue. Je remercie les personnes qui m'ont accueilli. Et je remercie l'abbé Roger de permettre la tenue de cet événement une fois encore. Alors, l'objet de cette conférence est la présentation donc du nouvel ouvrage des éditions Altitude. Ouvrage qui est double. Pourquoi double? Parce qu'il y a une réédition d'un grand classique que je pense nombre d'entre vous connaissent, à savoir La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après le cardinal Pie. Et j'ai adossé à cette réédition un essai que j'ai écrit sur Jacques Maritain, puisque les deux figures du cardinal Pie et de Jacques Maritain s'opposent. J'oppose le cardinal Pie et le magistère à Jacques Maritain et la religion Novus Ordo. Alors, me dira-t-on, mais pourquoi revenir sur la personne de Jacques Maritain? Après tout, sa critique a déjà été faite. Elle a été faite par l'abbé Mainweil, qui a montré, on va dire, le versant libéral de la philosophie de Jacques Maritain. Et elle a été faite par le philosophe québécois Charles de Coninck. Et Charles de Coninck a démontré que dans la doctrine de l'Église, le bien commun est supérieur au bien de la personne humaine, alors que Maritain et les personnalistes soutenaient le contraire, sur la base d'un certain nombre de sophismes, sur lesquels je n'en reviens pas ici. Donc tous ces travaux sont de qualité, j'invite les gens d'ailleurs à en prendre connaissance, mais ces travaux datent des années 40. Pour ma part, je me suis principalement focalisé sur d'autres points de la philosophie de Jacques Maritain, qui sont en lien direct avec Vatican II, avec la préparation de Vatican II, et plus largement avec la religion conciliaire. Donc je me suis intéressé à Maritain de la même manière que je me suis intéressé à Congar et à de Lubac, c'est-à-dire en sa qualité d'hérésiarque Nouvel Ordo, concrètement. Mais avec Maritain, c'est d'autant plus intéressant, parce qu'il est selon moi l'inspirateur de ce que j'appelle la mentalité conciliaire. Et dans cette conférence, je vais essayer de donner des clés de compréhension pour mieux cerner le cerveau torturé des conciliaires. Donc, sur quel point précisément de sa philosophie je me suis intéressé? Je me suis intéressé à ce qu'on appelle la réconciliation avec le monde. Il y a trois piliers de la religion conciliaire. Premier pilier, c'est l'œcuménisme, généré par Congar. Le deuxième, c'est la justification universelle inventée par de Lubac. Et le troisième, c'est la réconciliation, la pseudo-réconciliation entre le Christ et le monde. Car le Christ et le monde sont ennemis. Alors quand on dit le monde, précision sémantique, ça vise la cité profane qui rejette Jésus-Christ, qui ne se fonde pas sur la doctrine de l'Église. Dans d'autres traductions de la Bible, on évoque l'esprit du siècle, d'ailleurs. Voyez. Alors quelques citations des Saintes Écritures pour évoquer l'opposition entre le Christ et le monde. Là, je vais vous en faire trois, mais il y en a beaucoup plus. Bon. Alors, notre Seigneur nous dit, Évangile de Saint Jean, chapitre 7, verset 7, Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le monde me hait, nous dit le bon Dieu. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, donc de Saint Paul. Ne vous conformez pas au monde. Épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc ce sont des paroles assez explicites qui ne laissent pas beaucoup de place au doute. J'en cite trois, mais comme je vous l'ai dit, on aurait pu en citer bien davantage. D'ailleurs, le Christ nous dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Donc, s'il a vaincu le monde, il n'était peut-être pas très ami. Voilà. Mais bref, donc dans la doctrine de l'Église, il y a cette hostilité entre le Christ et le monde. Les conciliaires vont renoncer à cela, et ils vont renoncer, nous allons voir, à la doctrine du Christ roi, pour prétendre qu'il y a une réconciliation entre l'Église et le monde. Donc, nous allons aborder toutes ces problématiques. Alors tout d'abord, il nous faut avoir une vision précise de ce qu'est la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appellera plus tard la doctrine du Christ-Roi. La doctrine de l'Église nous enseigne, concernant les rapports entre l'Église et l'État, qu'il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel est... comment vous dire, le glaive spirituel est manié pour l'Église, plutôt par l'Église, et le pouvoir temporel est manié pour l'Église. Et ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Boniface VIII, dans le même sancta. En gros, avec des hauts et des bas, c'est ce qui a été en place de Clovis jusqu'à Louis VII. En gros, voilà, je schématise. Arrive la Révolution. Et la Révolution commence par laïciser, par séparer l'Église et l'État. Il va y avoir un bouleversement dans les rapports entre l'Église et l'État, et le concordat, d'ailleurs, sur le fond, ne va pas changer grand-chose. Et au XIXe, le cardinal Pie agit surtout dans la deuxième moitié du XIXe. Au XIXe, les fidèles de base, comme la hiérarchie catholique, va avoir l'esprit troublé par cette question du rapport entre l'Église et l'État. Et les libéraux de l'époque vont dire « Nous, on a trouvé la bonne formule équilibrée. » La bonne formule équilibrée, c'est une Église libre dans un État libre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Ça veut dire une Église libre, c'est-à-dire une Église qui n'est pas persécutée comme c'était le cas sous la Révolution. Et dans un état libre, ça veut dire dans un état qui n'a pas de couleur spirituelle, qui n'a pas d'exigence spirituelle pour ses sujets. Voilà. Le cardinal Pie va se dresser. Il va se dresser face à ses libéraux, et il va alors opposer ce qu'il appelle, lui, la royauté sociale du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu plus connue, la doctrine du Christ-Roi. Qu'est-ce que c'est, cette doctrine du Christ-Roi? C'est l'idée suivante. Bien entendu, pour le salut des âmes, il faut que le Christ règne sur les individus, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que le Christ règne sur les institutions. Sur les institutions. Et c'est ça que ne voulaient pas entendre les libéraux, et que ne veulent pas entendre les conciliaires. Alors concrètement, que vise le cardinal Pie? Qu'est-ce que ça implique, ce règne sur les institutions? Je dégage trois grandes lignes. Première grande ligne, l'État et la société, à l'instar des individus, doivent honorer la vraie religion. Voilà. Un État ne peut pas être neutre spirituellement. Deuxièmement, ça c'est encore plus gênant, je dirais, pour nos contemporains, il faut que les lois soient conformes aux lois de l'Église. Et troisième chose, les fausses religions n'ont aucun droit à l'existence, tout court, et encore moins dans l'espace public. Elles peuvent être tolérées en vue d'un plus grand bien, mais n'ont aucun droit à l'existence, contrairement à ce qu'il nous a enseigné dans la Constitution conciliaire, dont j'ai oublié le nom. Dignitatis humanae, autant pour moi. D'ailleurs, ce n'est pas une constitution. Donc, ça, on va dire, ce sont les trois piliers qui font la doctrine du Christ-Roi. Alors pourquoi le cardinal Pie était à ce point véhément contre les libéraux? Parce qu'il constatait que le nouveau rapport entre l'Église et l'État, qui s'est instauré plus ou moins à partir de la Révolution, générait quoi? Générait de l'apostasie. Voilà. Et Mgr Pie constate qu'il vit dans une société qui apostasie de plus en plus. Et Mgr Gaume, dans l'ouvrage dont j'ai oublié le nom, nous dit, en parlant des clercs, « Nous ne sommes pas aimés. » Nous ne sommes pas aimés. Alors pourquoi y a-t-il ces progrès de l'apostasie? Petite citation du cardinal Pie. Quand l'erreur est une fois incarnée dans les formes, dans les formules légales et dans les pratiques administratives, elle pénètre les esprits à des profondeurs d'où il devient comme impossible de l'extirper. Très concrètement, quand l'État prêche le faux, bah fatalement, les gens qui passent par l'éducation nationale, qui passent par l'université, s'imbibent du faux. Tout simplement, c'est humain. Alors, un mot sur l'apostasie. Tout n'a pas commencé avec Vatican II en la matière. Loin s'en faut, hélas. Petit chiffre donné par Guillaume Cuffier dans son ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». En 1954, Selon une étude, quel était le pourcentage de catholiques qui se confessaient plus d'une fois par an? Plus d'une fois par an. Réponse, 15%. Et quand on gratte derrière ce chiffre, 15% c'est quoi? C'est 23% de femmes, 7% d'hommes. C'est-à-dire que les hommes se confessent. Donc si on se confesse plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas conscience de la nécessité d'être en état de grâce pour se sauver. Et si on n'a pas conscience de ça, c'est qu'on n'a pas la foi catholique. C'est tout. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup plus de baptêmes, la pratique dominicale était plus élevée, les clercs n'avaient pas apostasié, petite différence quand même. Mais on voit quand même que l'apostasie avait fait de très grands pas, et l'avait fait pourquoi? Qu'est-ce qui avait véhiculé cet athéisme dans la société? C'était l'abandon de la doctrine du Christ roi par les institutions. Et le cardinal Pio, de ce point de vue-là, avait vu juste. Et cette question de la doctrine du Christ roi est absolument fondamentale, parce que ça concerne tous les domaines de la vie. Parce que si cette doctrine était appliquée aujourd'hui, Vincent Lambert n'aurait pas été assassiné, la pornographie serait interdite, le mariage gay, on n'en aurait jamais entendu parler, toutes les lois que veulent faire passer les pervers de gauche, c'est pareil, ça passerait pas. L'avortement n'existerait pas. La construction de mosquées, lol, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on voit bien qu'on serait dans un monde complètement différent, si s'appliquait à la doctrine du Christ en moi. C'est une question qui est absolument capitale, qui est défendue par le cardinal Pi. Donc, on peut penser, quand on écoute toutes ces questions, ah, c'est de la théologie, c'est loin de ma réalité quotidienne, c'est loin de mon loyer que je dois payer, c'est loin de ceci, c'est loin de cela. Pas du tout. Au contraire, on est au cœur de la vie parce que cette question-là conditionne toutes les strates de nos vies, absolument toutes les strates de nos vies. Un truc tout bête, hein, s'il y avait plus d'avortement, il y aurait eu beaucoup plus de Français. S'il y avait beaucoup plus de Français, on n'aurait pas de mal à financer le régime des retraites. Hein, dédicace, aux baby-boomers. Les gens comprendront. Donc cette question est absolument fondamentale et le jour où les choses seront remises en place, vous savez aujourd'hui il y a ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire que quand une loi est votée, on peut saisir le Conseil constitutionnel et on compare cette loi par rapport au principe du bloc de constitutionnalité dont le cœur est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et bien, quand nous serons au pouvoir, ce contrôle de constitutionnalité existera toujours, sauf que on ne comparera pas les lois, on ne les appréciera pas par rapport au bloc de constitutionnalité qui est fondé sur la philosophie des Lumières, mais par rapport à la doctrine de l'Église. Voilà. Donc quand on nous votera une loi sur la GPA, on voit que c'est contraire aux lois naturelles, donc censure. Boum. Voilà. Donc vous disais-je, le cardinal Pi, face aux libéraux de l'époque, a défendu cette doctrine du Christ roi. Voilà. Et ça a été la doctrine de l'Église. Alors après, les États s'y pliaient plus ou moins, mais ça a été officiellement la doctrine de l'Église, jusqu'à Vatican II. Enfin, on sait toujours la doctrine de l'Église d'ailleurs, puisqu'on sait ce qu'il faut penser de la secte conciliaire. C'est une entité disjointe. Jacques Maritain, pendant des années, va défendre la doctrine du Christ en roi. Alors, de façon un peu pompeuse, très emphatique, mais sur le fond, il va la défendre. Mais petit à petit, il va dévier. Pourquoi et comment? Alors déjà, il va faire un constat. Il va dire, mais attendez, nous, on veut imposer une chrétienté. Nous, catholiques, on veut refaire une chrétienté. Mais attendez, vous voyez bien qu'il y a une masse d'athées devant nous. Comment pourrons-nous réinstaurer ou imposer une chrétienté à ces athées? Compliqué. En plus, vous voyez bien qu'il n'y a plus que des catholiques maintenant, il y a aussi des hérétiques, il y a des juifs, il y a des infidèles. Comment voulez-vous imposer une chrétienté à ces gens-là? Impossible. Et, ultime objection de Jacques Maritain, aujourd'hui on ne peut plus faire de chrétienté à l'ancienne. Pourquoi? Parce que je cite, nos sociétés ne peuvent plus être naïves. Tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jacques Maritain nous dit, les sociétés sont traversées par le progrès. Voilà, le bon Dieu fait que les sociétés sont traversées par le progrès. Quel progrès? Progrès technique? Pas du tout. Le progrès selon Maritain, là c'est moi qui traduis, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que un problème humain n'est plus apprécié sur l'échelle du collectif, mais elle est dorénavant appréciée sur l'échelle de l'individuel. Et ça, c'est une clé de compréhension, on va voir, de la religion conciliaire. Exemple, la peine de mort. La peine de mort a été validée et promue par le magistère de l'Église. L'Église ne peut pas faire le mal. En matière de foi humaine, elle ne peut pas faire le mal. Donc, la peine de mort, c'est bien. Voilà. Je répète, la peine de mort, c'est bien. C'est une mesure de bien commun évidente, puisqu'elle permet d'éviter de récidiver, et elle dissuade, bien sûr. Elle dissuade. Bon. Je me rappelle, vous savez, d'une caricature de la fin du 19e. À la fin du 19e, les racailles de l'époque, c'est ce qu'on appelait les apaches. Voyez? Et il y avait un dessin, donc une caricature de l'époque, où on voyait un apache qui était emmené à la guillotine, et en dessous, il y avait marqué « Les apaches n'ont pas peur de la prison, mais ils craignent, alors, je ne sais plus si c'est le bourreau ou quelque chose comme ça. » Et on voyait l'apache en train de trembler, en train de monter à l'échafaud. Bah, bien sûr, la peine de mort a des vertus de dissuasion, si je puis dire. Bon. Mais la peine de mort est une mesure de bien commun, validée par saint Thomas d'Aquin, c'est un bien. Voilà. Que nous disent les conciliaires sur la peine de mort? Il faut les écouter. La peine de mort, comme son nom l'indique, met un terme à la vie de l'individu. Donc c'est un mal. C'est un mal. Et Bergoglio va aller au bout de la logique et il va nous dire, finalement, j'ai lu les évangiles, ce qu'on n'avait pas fait les papes pendant 2000 ans, et en lisant les évangiles, je me rends compte qu'il faut abolir la peine de mort. Voilà. Bon. Donc la peine de mort qui est un bien, quand on l'apprécie à l'échelle collective, donc c'est un bien de protection de la société, eh bien la peine de mort, via le progrès selon Maritain et les personnalistes, puis les conciliaires, la peine de mort devient un mal. Donc le progrès pour ces messieurs, c'est le fait que les individus s'affranchissent des exigences d'autrefois qui étaient imposées par les nécessités du bien commun. Voilà ce qu'est le progrès selon eux. Et en raison de ce progrès, on ne peut plus faire de chrétienté, entre guillemets, à l'ancienne. Quel est l'ancien type de chrétienté? Maritain donne une bonne définition. Il nous dit, la chrétienté autrefois, c'était que le bien temporel était au service, était un instrument du bien spirituel. Effectivement, c'était ça, la chrétienté autrefois. Il appelle ce modèle de chrétienté le Saint-Empire, d'ailleurs. Retenez cette formule. Maritain va vous dire, pour réconcilier l'Église et le monde, il faut faire une cité naturaliste. Il faut faire une nouvelle chrétienté. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chrétienté de Maritain? Maritain nous dit, le Saint-Empire était décorativement chrétien, c'est-à-dire qu'il imposait le catholicisme par un système de contraintes et de privilèges. Dans la nouvelle chrétienté de Maritain, selon l'intéressé, donc la société n'est plus décorativement chrétienne, elle est vitalement chrétienne. Elle l'est par la vie des individus. Vous voyez? Elle l'est par ce qu'il appelle l'influence morale. Et comme ça, la société sera vraiment chrétienne et le christianisme ne sera plus, entre guillemets, imposé par l'État. Alors ceci appelle quand même toute une série de réflexions, mais avant, pour vous résumer la doctrine Maritain, je vais vous citer un sordide personnage dont je vous ai déjà parlé, qui est Yves Congar, qui nous décrit l'influence morale de Maritain comme ceci. L'Église veut exercer une influence sur les personnes, par les personnes, par la voie de leurs convictions et la force de vérité elle-même. Influence, cela signifie action réelle sans pouvoir. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc là par rapport à la doctrine Christ-Roi? Qu'est-ce qui manque? Il manque vouloir exercer de l'influence par les institutions. Mais non, là il ne reste plus que les personnes. Donc ce n'est plus que par les personnes que socialement le catholicisme doit être influent. Alors quelques petites remarques. Tout d'abord historiquement. Est-ce qu'il est vrai que historiquement c'est l'État qui a imposé le catholicisme aux populations? Quand on regarde l'histoire de l'Empire romain, c'est faux. C'est la société, avec l'aide du bon Dieu, qui a converti Constantin, qui a converti Théodose, et dans un second temps seulement, effectivement, à partir de Théodose, on a mis en place la royauté sociale de Jésus-Christ. On a offert à la société des garde-fous, c'est vrai. mais dans un second temps uniquement, premièrement. Donc Maritain, déjà, a une vision d'histoire inversée. Donc sur cette base-là, que voulez-vous faire? Quand on a un postulat de base qui est erroné, c'est pas bon signe. Ensuite, Maritain diabolise la notion de contrainte. La contrainte, c'est pas bien. Moi, je réponds, la contrainte est un mal pour les personnes qui pensent que la liberté d'individu l'emmène forcément vers le bien. Parce que si la contrainte, et là je cite Damien Arrivos, si la contrainte est ce qui sert à vous maintenir dans le sentier de la vérité, vive la contrainte. Moi, je n'ai aucun problème avec la contrainte. Pourquoi? Parce que l'homme a le mal en lui. Ça, c'est encore une fois, hein, c'est Grégoire, c'est ce qu'il nous dit, c'est dans Mirai toujours. L'homme est naturellement enclin au mal. Et Pie XII nous dit que l'homme a lui aussi un penchant naturel vers le mal. Donc il faut museler l'homme, c'est comme ça. On est tous des pécheurs, c'est ainsi. Bon. Donc vive la contrainte qui nous permet de rester en état de grâce. Le catholique, de toute façon, vit sous la contrainte. Il vit sous la contrainte de rester en état de grâce. Il vit sous la contrainte d'aller se confesser si on a fait le péché mortel. Nous, catholiques, on n'a pas de problème avec la contrainte. Tant que cette contrainte vise, bien entendu, à nous maintenir dans la vérité et dans la vertu. Voilà. Et par définition, les contraintes qu'impose l'Église visent à cela. Par définition. Donc Maritain diabolise la contrainte parce qu'il a une vision erronée de la nature humaine et il ne veut pas voir que la nature humaine a du mal en elle. Il fait la même erreur que les philosophes des Lumières. Alors ensuite, arrivons à ce fameux concept d'influence morale. C'est là qu'on voit la naïveté de Maritain. Parce que Maritain nous dit en gros, c'est la société qui doit se débrouiller toute seule pour être catholique. Mais monsieur Maritain, la nature a horreur du vide. Si vous laissez les clés de la maison aux ennemis de l'Église, vous croyez que eux, ils vont se priver d'influencer la société? Si vous laissez l'État aux ennemis de l'Église, ils vont pas se priver de neutraliser cette influence de la société. Ils vont pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, fondamentalement. C'est-à-dire que le petit adage que j'invente dans mon livre, c'est il n'y a pas de juste milieu. Soit vous avez Néron, soit vous avez Théodose. Donc si vous dites à Théodose de partir, c'est Néron qui va prendre la place. Et ça, Maritain ne veut pas le voir. Il ne veut pas voir que l'État soit soutient l'Église, soit la persécute, mais qu'il n'y a pas d'État stationnaire. Et d'ailleurs, la preuve que la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique, c'est qu'elle n'est pas persécutée par le système. C'est quand même un signe assez révélateur, selon moi. Bon. Et ensuite, pour finir sur cette influence morale, prenons une jurisprudence relativement récente qui est la Manif pour tous. La Manif pour tous, on a vu toutes les forces catholiques et conciliaires se réunir pour un combat sociétal, donc un combat contre l'État, contre les institutions. Ça a été des mobilisations absolument colossales. Pour quel résultat à la fin, vous le savez. Et au final, qui a gagné? C'est l'influence morale ou c'est l'État qui a gagné? C'est l'État qui a gagné. Donc c'est un échec complet de la doctrine Maritain. Et pourtant, les moyens financiers, humains, avaient été mis. Voyez? Donc là, on a bien la preuve que si on n'a pas le Christ au roi, c'est la porte ouverte à l'institutionnalisation du vice. Voilà. Eh bien, cette doctrine de Maritain de la nouvelle chrétienté qui ne doit s'imposer que par les personnes, eh bien, elle va être consacrée par la secte conciliaire. Ça va devenir l'enseignement de base de la secte conciliaire et ça va se faire en deux temps. Premier temps, c'est la pseudo-encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam. Alors je précise que Paul VI était très influencé par Maritain, qu'il était très ami, et que Paul VI a même traduit Maritain. Certains disent aussi que Paul VI est intervenu pour que Maritain ne soit pas mis à l'index. Donc Paul VI, dans sa pseudo-encyclique Ecclesiam Suam, va inventer un concept théologique, qui s'appelle le dialogue. Alors qu'est-ce que c'est le dialogue? Citation. Point 10, l'Ecclesiam Suam, on s'accroche. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole. L'Église se fait message. L'Église se fait conversation. Tiens, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Paul VI non plus, d'ailleurs, il ne sait pas trop. Ça n'existe pas tout ça. On n'est pas plutôt dans la scolastique. Ça n'a absolument aucun sens. C'est du baratin. Voilà. Alors, Cette notion de dialogue, de Paul VI nous dit que c'est un moyen d'exercer la mission apostolique, merci de le préciser, c'est, je cite, un art de communication spirituelle. Un art de communication spirituelle, pourquoi pas? Et alors plus tard, il nous définit le contenu du dialogue. Qu'est-ce que c'est le dialogue? Il nous dit que c'est une nouvelle forme de rapport avec autrui, avec un non-catholique bien entendu, qui implique quoi? Qui implique quoi? Ce nouveau rapport avec le monde, je cite, exclut la condamnation a priori. Petite phrase pleine de sens. Pleine de sens. Puisque le monde, selon la doctrine de l'Église, est coupable. Il est coupable de rejeter le Christ. Mais Paul VI, dans Ecclesiam Soam, nous dit non, 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 non. On exclut la condamnation a priori. C'est un renversement complet. Renversement complet. Et plus loin, Paul VI se fait plus clair. Quel est le but du dialogue? Du dialogue avec les fausses religions, notamment. Point 112. Nous ne voulons pas refuser de reconnaître avec respect les valeurs spirituelles et morales des différentes confessions religieuses non chrétiennes. Alors, petite parenthèse, Pie XI, dans Mortelium Animos, nous dit que trouver que les religions sont plus ou moins bonnes, c'est une hérésie. Passons. Nous voulons avec elles, donc avec les fausses religions, promouvoir et défendre les idéaux que nous pouvons avoir en commun. Dans le domaine, on s'accroche, de la liberté religieuse, tiens, tiens, je crois que c'était condamné par l'Église, de la fraternité humaine, de la sainte culture, de la bienfaisance sociale et de l'ordre civil. Donc le dialogue, à quoi vise-t-il au final? Au final, à quoi vise-t-il? Il vise à défendre des idéaux temporels. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut convertir comme ça? C'est pas très sérieux. Bon. Paul VI nous dit, dans cette encyclique, que l'Église a davantage conscience d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Le corps mystique du Christ a davantage conscience de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. C'est du baratin, c'est de l'enfumage, qui n'a aucun sens. Et au final, on en arrive à quoi? On en arrive à nous dire, ne vous imposez pas au monde. Parce que, j'ai oublié de vous dire, quand même, attendez, parce qu'il y a cette petite citation, si je l'ai. Ça, c'est merveilleux. À quoi sert le dialogue? Vise-t-il à convertir? On n'est plus tout à fait sûr. Hein. Si le dialogue ne vise pas à obtenir immédiatement la conversion de l'interlocuteur, pourquoi? Pourquoi ne vise-t-il pas à obtenir immédiatement la conversion de l'interlocuteur? Je cite. Parce que le dialogue respecte sa dignité, sa liberté. Attendez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on convertit quelqu'un, on ne respecte pas sa dignité et sa liberté? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Que nous enseigne la doctrine de l'Église? C'est que l'homme est esclave tant qu'il est soumis au péché. Donc, pour être libre, il faut être en état de grâce. Bon. Par ailleurs, pareil pour la dignité. Si on est en état de péché mortel, c'est qu'on est puni d'aller au ciel. Donc, pour être digne, il faut être en état de grâce. Qu'est-ce que nous raconte Paul VI là? En quoi une conversion immédiate serait-elle contraire à la liberté et à la dignité de l'individu? Peut-on m'expliquer? Je ne comprends pas. Lui non plus d'ailleurs, je pense. Et les conciliaires non plus. Bref, le grand acquis pour l'hérésie conciliaire de Ecclesiam Soam, c'est que le monde n'est plus condamné a priori. Il était coupable. Enfin, il est coupable dans la doctrine de l'Église, dans la doctrine conciliaire, le monde est disculpé. Un deuxième pas est franchi au Concile Vatican II. Dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, qui est vraiment l'enfant napolitain. Cette constitution pastorale, c'est vraiment le fruit de sa pensée. Puisque cette constitution pastorale vise officiellement à réconcilier l'Église et le monde. Alors, au tout début de la constitution, que nous dit-on? Point 3.2. L'Église offre au genre humain, non, pardon, le Concile offre au genre humain la collaboration sincère de l'Église, ça commence mal. Collaboration pour quoi? Pour sauver les âmes? Bande de naïfs. Pour l'instauration d'une fraternité universelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est catholique, ça? C'est scolastique? Qu'est-ce que ça veut dire? La fraternité universelle, sauf de ma part, c'est un projet maçonnique, mais passons. Alors, comment s'exprime cette collaboration avec le monde? Je vais vous faire trois citations de Gaudium et Spes. Je vous ai cité tout à l'heure cette opposition frontale, explicite, entre le Christ et le monde. Que nous disent les pères conciliaires de Vatican II? Gaudium et Spes, 41.3. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Voilà. Non, c'est Gaudium et Spes, 44, pardon. Donc, l'Église, selon eux, en fait la secte conciliaire, est fermement convaincue que pour préparer les voies à l'Évangile, le monde peut lui apporter une aide précieuse. Attendez, je ne comprends pas trop. Le Christ nous dit, le monde me hait, et vous, vous racontez, le monde peut apporter une aide précieuse pour annoncer l'Évangile? Comment on peut tout articuler cela? On voit bien que le Concile dit l'inverse, le Conciliabule dit l'inverse des Saintes Écritures, et plus tard on enchaîne en disant, voici quelques principes généraux concernant le bon développement des échanges entre l'Église et le monde, et de leur aide mutuelle, qui leur sont en quelque sorte communs. Je renvoie aux citations précédentes sur l'opposition entre Christ et le monde, comment peut-il y avoir une aide mutuelle? Ce n'est pas possible. Ensuite, Gaudium et Spes, 41.3, on s'accroche là, on s'accroche vraiment. L'Église, avec des guillemets, hein, en vertu de l'Évangile qui lui a été confié, attention, l'Église, proclame les droits de l'homme. Tiens, tiens, proclame les droits de l'homme. Alors c'est curieux parce que dans une encyclique de 91, 1791, Pie VI, c'est Adeo Nota de mémoire, nous dit que les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont, je cite, contraires à la religion et à la société. Alors moi je pose la question, qui a raison? C'est Pie VI ou c'est Paul VI? C'est Pie VI qui condamne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au passage la Constitution civile du clergé, ou c'est Paul VI et les pères conciliaires influencés par Monsieur Maritain? Qui a raison? Parce qu'on nous dit l'inverse là. Voilà. Ensuite, je poursuis, c'est le dernier, rassurez-vous, parce que je précise que dans mon ouvrage, je fais une analyse très poussée et très approfondie de ces deux textes. Donc là, pour ne pas trop user de votre patience, je limite la casse. Mais j'ai vraiment insisté sur ces points. Alors, dernière citation, les chrétiens ne peuvent pas former de soucis plus vifs que celui de rendre service à qui? Au bon Dieu, à l'Église, à Jésus-Christ, non pas du tout, aux hommes de leur temps. Ah, moi, je réponds à M. Paul VI, M. Montini, ben, si, les chrétiens ont un souhait plus vif que celui de défendre les hommes de leur temps et de se mettre à leur service, c'est de défendre l'Église, de défendre le bon Dieu. On voit que Gaudium et Spes théorise la mise au service, de la mise au service du monde, de la secte conciliaire, concrètement. Voilà. Donc, Gaudium et Spes a théorisé cette idée donc que le monde et l'Église, entre guillemets, sont réconciliés. Un an après le concile, Maritain écrit un ouvrage qui s'appelle Le paysan de la Garonne. Il fait le bilan du concile. Il fait le bilan. Alors, pour lui, c'est chavirant, petite parenthèse. Hein. Et vous imaginez, vous êtes un être humain normal, vous avez une activité intellectuelle, et toutes vos idées sont consacrées dans ce qui est officiellement un concile catholique. Il y a de quoi chavirer tout de même. Hein. Il y a de quoi chavirer. Que nous dit Maritain? En vérité, tous les vestiges du Saint-Empire sont aujourd'hui liquidés. Un âge nouveau commence. Voici accompli le grand renversement en vertu duquel ce ne sont plus les choses humaines qui prennent en charge de défendre les choses divines, mais les choses divines qui s'offrent à défendre les choses humaines. On va rester sur cette phrase. Répétons. Donc, voici accompli le grand renversement. Alors, déjà, tiens, il y a un renversement dans la doctrine de l'Église, c'est possible, hein? En vertu duquel, donc, ce ne sont plus les choses humaines qui prennent en charge de défendre les choses divines, donc, ce ne sont plus les institutions qui font respecter la loi de l'Église, donc ça veut dire la doctrine du Christ roi passe à l'étape. C'est ça que ça veut dire. Et il nous dit à l'inverse, les choses divines, donc les catholiques, s'offrent à défendre les choses humaines. Donc ne sont plus au service du Christ, mais des hommes, c'est la fameuse influence morale. Et un peu plus loin, Marita est donc plus claire. Le christianisme n'a donc plus à compter sur l'aide et la protection des structures sociales. Ça veut dire le Christ roi. C'est terminé, les gars. C'est ça que ça veut dire. Alors, les intéressés, rassurez-vous, ne comprennent pas qu'il y a une contradiction absolue entre la doctrine de l'Église et les hérésies qu'ils professent. Donc, le Christ roi n'existe plus pour les conciliaires. Et les conciliaires sont en communion avec le monde, à quelques exceptions près, sur l'avortement, par exemple. Bon. Maritain, en plus d'être un des hérésiarques de la religion Nouvelle Ordo, est selon moi l'inspirateur de ce que j'appelle la mentalité conciliaire. Qu'est-ce que c'est la mentalité conciliaire? C'est une mentalité de non-condamnation du monde, d'adaptation au monde. C'est cette idée qu'il ne faut pas s'imposer à autrui pour ne pas heurter sa conscience. Voilà. Rappelez-vous, hein, ça heurterait sa liberté, sa dignité, comme le dit Paul VI. Donc la mentalité conciliaire, donc, c'est l'adaptation au monde, ce n'est plus le choc frontal face au monde. Et ceci repose, selon moi, sur une vision erronée de la notion d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est le don de soi. Mais pour les conciliaires, c'est autre chose. Pour les conciliaires, c'est le reniement des principes au nom d'une pseudo-générosité. Exemple parlant, l'immigration. Il n'a échappé à personne que l'Europe est l'objet d'une invasion. C'est un fait. Cette invasion est soigneusement entretenue par les institutions révolutionnaires qui visent à africaniser un maximum et à islamiser un maximum la France et sa voix à l'échelle européenne. En gros, plus ou moins tous les gouvernements d'Europe, à quelques exceptions près, ont cette politique. Que fait la secte conciliaire face à cela? Est-ce qu'elle s'y oppose? Parce que ce mouvement d'invasion détruit le bien commun des nations et accroît la déchristianisation, par définition. Quand on prévient des populations non catholiques, par millions, par définition, dans l'espace social, il y a une déchristianisation. Donc que fait la secte conciliaire face à cela? Est-ce qu'elle s'oppose au torrent? Pas du tout. Elle l'encourage. À chaque fois qu'il le peut, Bergoglio, vous le savez, dans sa communication, encourage l'accueil, en réalité l'acclimatation à l'invasion. Récemment encore, il a fait une statue en l'honneur des migrants. Vous voyez, c'est très moche d'ailleurs. De toute façon, nous, on l'imitera, donc qu'elle soit moche ou belle, c'est pareil. C'est pareil. Elle n'a pas vocation à perdurer. Mais la secte conciliaire valide l'invasion. Quel est le raisonnement? Le raisonnement est le suivant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. On apprécie le problème non plus à l'échelle collective, mais individuelle, à l'échelle personnaliste. Petite parenthèse, les conciliaires bien formés, qui restent néanmoins déformés, vous parlent de l'herméneutique de la continuité. En réalité, leur hérésie vient du fait qu'ils ont une herméneutique personnaliste. C'est-à-dire qu'ils relisent tout le magistère à travers le prisme du personnalisme. Et ça s'illustre avec l'immigration. Donc on approche la question de l'immigration sur le point de vue individuel. Un individu se présente à vous, il est en difficulté économique et sociale, il faut donc l'aider. Qu'importe, selon la secte, si cela contribue à détruire le bien commun, qu'importe si cela déchristianise davantage encore le continent européen. Vous voyez ? Donc derrière cette pseudo-générosité de « je suis charitable, donc j'accueille », on aboutit à quoi ? Au renoncement aux principes, puisque ça déchristianise. Donc les principes officiels de la secte conciliaire sont le catholicisme, mais il stimule un phénomène qui aboutit à son effacement. Donc reniement des principes au nom d'une pseudo-charité. Pourquoi ? Toujours pareil. Parce qu'on ne doit pas s'imposer au monde. Il ne faut surtout pas s'imposer au monde. Et quand vous discutez avec un conciliaire, quand un catholique discute avec un conciliaire, de quoi l'accuse le conciliaire ? Il accuse de manquer de charité. Vous êtes méchant. Vous appelez un hérétique et non pas un frère séparé. Pareil pour les schismatiques. Vous osez dire que les infidèles sont des infidèles. Vous osez ne pas faire de concessions au monde. Vous osez ne pas renoncer au bien commun au profit de la personne humaine. Vous manquez de charité. Voilà. Comme si On pouvait faire d'ailleurs la disjonction entre la charité et la vérité. On ne peut pas faire la disjonction entre les deux. Parce que s'il n'y a pas la vérité, au final, il n'y a pas le bien céleste. Donc c'est quelque chose de très périssable et ça ne sert à rien d'un point de vue de l'éternité. On ne peut pas faire la disjonction entre la charité et la vérité. Et même si la défense de la vérité heurte des susceptibilités, eh bien, c'est la charité véritable. La charité, parfois, c'est de faire violence à l'esprit d'autrui en lui disant « tu es dans le faux, tu es dans l'hérésie ». Alors, il faut prendre des pincettes, il faut prendre des formes, il ne faut pas brutaliser, je dirais, l'interlocuteur, surtout que nous sommes dans une société de femelles, hein, faut bien le reconnaître. Et c'est les hommes que je vise quand je dis ça, c'est pas les femmes, hein, dans lequel la vérité est malséante et elle fait violence. Voilà. Et bien écoutez, cette violence, il faut parfois l'infliger aux gens et il faut les prendre frontalement et leur dire tu es dans le faux, tu es dans l'erreur, tu es dans l'hérésie. Ben moi, je suis content d'être tombé sur des gens qui ont dit que j'étais dans le faux. Voilà. Je suis très content. Et si on n'est pas stimulé uniquement par l'orgueil, on reconnaît son erreur. Et quand on reconnaît ses erreurs, on se rapproche de la vérité. Donc, n'en déplaise à ces messieurs les conciliaires, la charité commence par énoncer la vérité et par rappeler les vrais principes, même si cela heurte les non-catholiques de base. Voilà. Alors, cette réconciliation avec le monde, je vais vous en donner quelques petits exemples quand même, des exemples très concrets. Dans les années 60 et 70, les conciliaires ont inventé un type de pastoral. La pastorale de l'enfouissement. Qu'est-ce que c'est la pastorale de l'enfouissement? Il fallait que les catholiques s'enfouissent, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, dans la société, pour lever la société tel le levain. Résultat des courses. Qu'est-ce que ça a été? L'apostasie. Le défroquage des prêtres, les religieuses qui abandonnent leur vocation, les fidèles qui arrêtent tout, etc. C'est normal, parce que quand on s'imbibe du monde, quand on s'imbibe du monde, on apostasie. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, avec le recul, cette pastorale de l'enfouissement, on peut peut-être se dire que c'était peut-être une façon d'envoyer au carnage, si je puis dire, les catholiques, et d'accélérer l'apostasie. Parce que c'était difficile à éviter en pareilles conditions. Autre exemple. Très récemment, là, il y a quelques jours, les conciliaires ont adopté des nouveaux registres de baptême dans lesquels les notions de père et mère ont sauté, ont été effacées. Donc ça veut dire que la secte conciliaire a adopté la théorie du genre qui émane non pas de l'Église, non pas du Saint-Esprit, mais qui émane du monde. C'est un énième exemple de la réconciliation avec le monde. Autre exemple, notre Seigneur a été gravement insulté sur France Inter par un avorton gauchiste, il y a quelques jours de ça. Quelle a été la réaction de la secte conciliaire? Est-ce que vous la connaissez? Rien. J'ai rien entendu. S'ils l'ont fait, c'était très discret. Moi, je n'ai entendu aucune réaction de la secte conciliaire. C'est-à-dire que notre Seigneur est insulté à grande échelle, plus que jamais, quasiment, en tout cas depuis très longtemps dans l'histoire de France, et ces guignols, désolé, je me censure pourtant un maximum, n'ont rien à dire. Non, attendez. Après, on va nous faire croire que ces gens-là ont la foi. Bon. Donc ça, c'est encore un exemple de réconciliation avec le monde qu'il ne faut en aucun cas heurter. Voilà. Je cite ces exemples-là, mais on pourrait en citer bien d'autres. Et vous verrez que, écoutez les interviews des clercs conciliaires quand ils sont interrogés par des non-catholiques dans les micro-médias, il y a toujours ce souci en arrière-fond de ne pas heurter le monde et d'essayer de formuler les choses de façon à ne pas heurter le monde. Moi, j'ai un truc, c'est que je vais sur Cato TV. Sur, vous voyez. Donc, allez sur Cato TV et vous verrez quoi. Voilà, c'est une boucherie. Hein. Cato TV, c'est un réquisitoire terrible pour les conciliaires. Donc, l'une des clés de compréhension de l'hérésie conciliaire, c'est cette réconciliation avec le monde. Et quand Vous conservez ça à l'esprit, vous comprenez tout. Vous comprenez pourquoi un tel dit ça, dit ceci, dit cela, pourquoi on n'entend pas la secte quand notre Seigneur est insulté gravement, etc., etc., etc. Petite parenthèse, notre Seigneur a été insulté gravement, la secte concernée n'a rien fait, mais je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, il y a eu des soufflantes. Pour ma part, j'ai invité des gens à faire des alertes au CSA. Combattons le feu par le feu. Et bien, on a fait des mini-campagnes d'alerte au CSA. Voilà. Et France Inter, surnommée par d'autres France Intox, a été obligé de s'excuser. Voilà. De vous à moi, je préfère qu'il se fasse davantage sanctionner. Voilà. Mais nous, au pouvoir, ces gens-là, on fait des 0 centimes, mais c'est licencié en gros faute grave pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il est hors de question que le bon Dieu se fasse insulter comme ça. C'est hors de question. Surtout par l'avorton gauchiste en question. Bref, ultime réconciliation avec le monde. Nous l'avons vu il y a quelques mois de ça avec le synode sur l'Amazonie. On a fait plus fort qu'à Assise, au synode sur l'Amazonie. À Assise, c'était toutes les religions qui priaient chacun de leur côté. Là, ils ont fait beaucoup plus fort. Ce sont des gens qui prétendent être les successeurs des apôtres, qui introduisent une idole païenne dans ce qui est censé être une église catholique. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Bergoglio a, entre guillemets, béni, je ne sais pas ce que ça vaut, moi, les bénédictions de Bergoglio, une personne qui venait de faire devant lui un rituel païen. Donc Bergoglio a donné sa bénédiction, entre guillemets, à un rituel païen. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ben, c'est l'ultime réconciliation avec le monde. On se réconcilie avec quoi, in fine? Avec les idoles païennes. Tout simplement. Tout est logique. Quand on comprend cette quête de compréhension maritain, tout est logique. On est surpris par plus rien. Terminons sur le synode sur l'Amazonie. La Providence a voulu que pendant le synode sur l'Amazonie, je lise un roman que vous connaissez tous, je pense, La maison battue par les vents de Malaki Martin. De quoi parle ce roman, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, pour les internautes qui ne connaissent pas? On est dans la secte conciliaire, ce sont là pour s'être dans l'Église catholique, et des cardinaux et des évêques cherchent à faire démissionner un pape, parce que celui-ci ne va pas assez loin dans l'apostasie et dans l'établissement de la religion mondiale. Le pape en question a tout accepté quasiment. Il a accepté Vatican II, les hérésies qui vont avec. Il a accepté l'homosexualité dans les séminaires. Il a accepté les rituels sataniques dans les séminaires et dans les églises conciliaires, etc. Mais il continue de s'accrocher sur quelques sujets. Par exemple, il ne veut pas de l'ordination des femmes. Il ne veut pas mettre un terme au célibat. Il ne veut pas trop bouger sur les questions de morale. Vous voyez? Donc, puisqu'il ne veut pas avancer là-dessus, des conspirateurs essaient de le faire démissionner, essaient, passez-moi l'expression, de le dégager. Voilà. Moi, je lis ça pendant le synode sur l'Amazonie. Et donc, je vois, bah tiens, il y a des gens qui veulent dégager un pape parce qu'il ne fait pas l'ordination des femmes au niveau du diaconat. Attendez, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Bergoglio fait tout ce que les conspirateurs du roman de Malaki Martin veulent, projettent. Extraordinaire. Extraordinaire. Et là, on revoit Maurice Laetitia. Un Maurice Laetitia qui bouleverse la morale. Le pape de Malaki Martin ne voulait pas Maurice Laetitia. Bergoglio fait Maurice Laetitia. Le pape de Malaki Martin ne voulait pas l'ordination des femmes. Bergoglio projette l'ordination des femmes. Est-ce que ça va se faire vraiment? Je ne sais pas. De toute façon, pour les synodes sur l'Amazonie, il y a un grand acquis, c'est que ces gens-là ont prié, entre guillemets, un autre Dieu, et vous connaissez les psaumes, les dieux des païens sont des démons. Ces gens-là ont prié un démon à la face du monde. Et on veut encore nous faire croire qu'ils sont catholiques. Hein, petite dédicace à la fraternité au passage. Voilà. Donc, ces gens-là, je répète, à la face du monde, ont prié un démon. Non mais c'est quand même fabuleux, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On ne peut pas aller plus haut, là. Ils ont tout fait, là. Moi, je dis souvent que Bergoglio, c'est la dernière chance que le bon Dieu pour ouvrir les yeux aux gens, quoi. Voilà. C'est la dernière chance. Bref, on se dit, mais pourquoi les conciliaires font-ils cette erreur stratégique? Pourquoi ils font cette erreur stratégique? Et pourquoi ils insistent avec le diaconat féminin, avec l'abolition du célibat des prêtres, etc. Là, l'imposture est en train d'éclater au grand jour. Pourquoi insiste-t-il? Pourquoi? Ben peut-être que Malaki Martin nous donne la solution. Selon lui, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé, mais de vous à moi, c'est tout comme. Selon lui, en 1963, il y a eu une messe noire au Vatican dans laquelle Satan a été intronisé. Mais les effets de cette messe ne sont que temporaires. Et dans le roman de Malachi Martin, à plusieurs reprises, des conspirateurs disent, on n'a plus que 5 ou 6 ans, maintenant il faut dégager le pape en question. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus de temps à perdre. Donc maintenant, il faut qu'on accélère. Ça nous évoque un peu la démission de Benoît XVI, puisque Benoît XVI voulait temporiser. Bergoglio accélère et il passe en quatrième vitesse. Oui. Donc, on peut faire aussi un parallèle avec Fatima. Le 13 octobre 1884, Léon XIII a une vision. Vous connaissez, je pense, il a une vision de dialogue entre le Christ et le diable. Le diable lui dit, donne-moi entre 75 et 100 ans et je vais détruire ton église. Le Christ lui dit, je te les donne. Le 13 octobre 1917, cette fois-ci, c'est quoi? C'est Fatima. C'est pas une science exacte ce que je vous dis là, mais on peut supposer que les fameux 100 ans ont commencé en 1917. Et comme par hasard, après 2017, il y a de plus en plus de clercs conciliaires qui dénoncent les hérésies de Bergoglio, qui disent que son magistère est un faux magistère, qu'ils disent qu'il professe des hérésies. On parle souvent du cardinal Burke, entre guillemets cardinal, hein, mais il n'est pas le seul. Il y a de plus en plus de conciliaires qui nous disent cet individu professe des hérésies, notamment Vigano. Hein. Vigano n'arrête pas aussi de dénoncer le faux magistère de François. Et j'ai envie de dire, attendez, il est pape ou pas, monsieur Vigano, cet individu-là? Parce qu'un pape qui a un faux magistère, ça n'existe pas. Hein. Dans la doctrine de l'Église, ça n'existe pas. Alors, où vous voulez en venir, monsieur Vigano? On peut parler aussi de Athanasius Schneider, qui accuse Bergoglio d'hérésie ouvertement. Qui sont peut-être des gens de bonne volonté, hein, ces gens-là. Je n'ai pas le droit de juger leur for intérieur, je ne le fais pas. Mais en revanche, sur le for externe, on peut poser la question de la cohérence entre leurs accusations d'hérésie et leur validation de la secte conciliaire. Ce n'est pas possible, vu qu'un pape ne peut pas être hérétique. Je suis tombé récemment sur une lettre apostolique de Pie IX, que je ne cite pas dans mon bouquin sur l'infaillibilité, c'est un regret, dans lequel il dit, c'est Saint Pierre qui parle le pape. Voilà. Est-ce que Saint Pierre peut parler et agir de façon à ce qu'on aboutisse au culte de Pachamama? Voilà, moi c'est la question que je voudrais poser à M. Schneider et Burke. Est-ce que M. Burke, s'il était en face de moi, je vous pose la question, M. Burke, est-ce que Saint Pierre peut introniser des idoles païennes dans une église catholique? Je pense qu'il se mettra à bafouiller, M. Burke. Voilà, je pense. Tout ça pour vous dire qu'en face, ils n'ont plus beaucoup de temps et qu'ils paniquent. D'ailleurs, ils se castagnent. Vous avez vu que Benoît XVI a fait un livre avec le cardinal Sarah pour s'opposer apparemment au célibat des prêtres. Donc il y a des clans chez les conciliaires. Il y a les très pressés et il y a ceux qu'on va appeler les temporisateurs, si je puis dire. Voilà. Mais en tout état de cause, ils n'ont plus beaucoup de temps. Voilà. Je ne sais pas combien tout ça va durer encore. Mais eux sont conscients qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Et la preuve de ce que je vous dis, c'est l'accélération du calendrier. Dans certaines de ses interventions dernières, Bergoglio parle même d'église synodale. Qu'est-ce que c'est une église synodale? Ça n'existe pas sur la doctrine de l'Église. Ça n'existe pas. Donc, ils accélèrent. Et nous arrivons, je pense, alors je ne dis pas que c'est demain matin, bien entendu, mais je pense qu'il n'y en a plus pour 30 ans. Voilà. Ça n'engage que ma subjectivité, mais je pense qu'il n'y en a plus pour 30 ans. Alors que faire face à cela? Eh bien, je vais faire la même conclusion que la dernière fois en citant deux références, les abbés Lehmann et Jean Vaquier. Que nous disent les abbés Lehmann? Je renvoie à leur petit texte qui s'appelle Le dénouement de la persécution. Il faut hâter l'intervention divine. Parce qu'il n'y a que le bon Dieu qui peut remettre à l'ordre là-dedans. Humainement, ce n'est pas possible. Il faut que le bon Dieu tape du poing sur la table et envoie un maximum de grâce pour remettre les choses à l'endroit. Humainement, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Bon. Comment faire pour hâter cette intervention? Les abbés Lehmann nous disent, il faut purifier la minorité qui n'a pas de règne. Et Jean Vaquier nous dit, il faut un maximum de pur. Donc il faut la quantité et la qualité. Donc j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, pardon, quantité et qualité. J'ai tendance à dire aujourd'hui que l'état de grâce vaut double. Il vaut pour vous, à titre individuel, bien sûr, et aussi, il permet cette purification, je dirais, de la dernière minorité qui n'a pas trahi. Donc plus que jamais, il faut être en état de grâce, c'est la morale de l'histoire. Et que faire donc pour cela? Eh bien écoutez, ma foi, il faut faire ce qu'on fait, non. Il faut professer la foi catholique, il faut faire ce que ne fait pas la fraternité Saint-Pédis, qui elle professe des hérésies gallicanes. Il faut professer la foi catholique, il faut professer les principes, il faut rappeler l'infaillibilité pontificale, car, comme nous le dit le bon Dieu, enfin le Saint-Esprit à travers le Saint Jean, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vous remercie.